Radio Kapi.
Afin que reprennent les activités bancaires à Goma, il y a eu réunion hier dans la ville entre des acteurs de ce domaine et des représentants du M23. Les représentants du secteur financier sont unanimes. La décision de rouvrir les banques relève des autorités monétaires à Kinshasa, en particulier de la Banque centrale du Congo, BCC. Le secteur de Panzi, territoire de Kasongo-Lunda, province du Kwango, est en proie à la malnutrition aiguë, sévère et chronique, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. L'administrateur de Kasongo-Lunda demande aux habitants de s'adonner aux activités agricoles et à avoir une alimentation équilibrée pour mettre fin à ce sérieux problème de santé publique. Célébration ce jeudi 13 février de la Journée mondiale de la radio. L'invité du journal, c'est Simon Weteshi, directeur de la RCBU, Radio Communautaire Bunyakiri, du territoire de Calais, province du Sud Kivu. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Une rencontre des acteurs du secteur financier élargi à des représentants du M23 s'est tenue hier mercredi à Goma. Ont pris part à cette rencontre les responsables des banques, des coopératives d'épargne et de crédit ainsi que des institutions de microfinance. Au centre des échanges, la reprise des activités bancaires dans la ville de Goma afin de faciliter la circulation de la monnaie. Denise Lukeso.
C'est pour apporter des solutions aux cris d'alarme lancés par les habitants de Goma d'avoir un accès difficile aux services financiers qu'une réunion a été convoquée invitant les membres du secteur financier, incluant les responsables des banques, des coopératives d'épargne et des crédits, ainsi que des institutions de microfinance IMF, à reprendre les activités. Cette rencontre visait à discuter de la reprise des activités bancaires dans la ville. Cependant, les représentants du secteur financier ont été unanimes. La décision de rouvrir les banques relève des autorités monétaires à Kinshasa, en particulier de la Banque centrale du Congo, BCC. Les IMF et les coopératives d'épargne, dont les fonds sont conservés dans des banques commerciales, partagent cette même position. Sans autorisation officielle, il serait impossible de relancer les opérations. Dans ce contexte incertain, la population de Goma est appelée à faire preuve de patience en attendant l'évolution de la situation.
Les tenanciers des pharmacies, eux, s'inquiètent du risque de pénurie en médicaments si l'aéroport de Goma n'est pas réouvert rapidement. Au niveau des dépôts pharmaceutiques qui distribuent en gros les médicaments aux pharmacies, certains médicaments ne sont plus disponibles et d'autres connaissent une hausse de prix de 10 à 75%. Écoutez le témoignage de cette pharmacienne qui vient à peine de reprendre ses activités depuis l'occupation de la ville par le 123 RDF. Ses propos ont été recueillis par Rosalie Zawadi.
Certains médicaments sont épuisés, les prix de ceux qui sont disponibles sont revus à la hausse. Nous ne savons pas où trouver les médicaments car les voies d'accès à Goma ne sont pas ouvertes. Plusieurs dépôts pharmaceutiques ici dans la ville sont ravitaillés à partir de Kinshasa et aujourd'hui il n'y a pas de vol. Je ne sais pas par où vont passer les médicaments. Par exemple, avant nous achetions un gramme de moxiclav à 14 500 francs congolais. Aujourd'hui, nous l'achetons à 16 000 francs. La boîte de diclofenac injectable, nous l'achetions à 10 000 francs congolais. Aujourd'hui, la même boîte revient à 17 500 dans les dépôts pharmaceutiques. Nous, les pharmaciens qui revendons en détail, nous sommes en difficulté. En plus, l'argent ne circule pas dans la ville. Dans cette ville, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de malades. Si les stocks actuels sont épuisés, nous ne saurons pas nous réapprovisionner.
Contacté, professeur Ouasso Missona, président du conseil d'administration de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels, ESRAM, indique qu'une réunion est prévue ce jeudi à Goma pour faire le point sur la situation de l'approvisionnement en médicaments pour la population, non seulement de Goma, mais aussi celle des territoires qui s'approvisionnent aussi dans cette ville. Restons à Goma. De présumés bandits ont été lapidés à mort par les habitants du quartier Mugunga ce jeudi. Ce énième incident porte à plus de 20 le nombre de personnes tuées par justice populaire depuis quelques jours, en particulier dans les quartiers de la commune de Karisimbi. Une organisation locale affirme que ce problème devient de plus en plus préoccupant dans la ville de Goma, occupée depuis quelques semaines par le M23, soutenu par le Rwanda. Bernard Danyangi.
Ce sont les habitants en colère qui traquent à présent tout présumé meurtrier.
ou cambrioleurs, indiquent plusieurs sources locales. Le responsable de l'ONG Union pour le Progrès et la lutte contre les antivaleurs, UPLA, déplore que cette pratique touche à présent l'ensemble de la ville de Goma. Emmanuel Nyakassane.
Nous sommes le 13 février. Il y a déjà plus de 20 personnes tuées dans les cas de justice populaire ici dans la ville de Goma. Pour nous, la première cause serait la fuite des prisonniers de la prison centrale de Goma ce lundi 27 janvier. Dans cette prison, il y avait des bandits de grand chemin. C'est-à-dire la globalité de la ville de Goma était déjà caractérisée par le système 40 voleurs. La population était déjà fatiguée de ce système-là. La troisième raison, c'est la distribution vaille-cavaille des armes. Avec le système Oazalendo, on a distribué des armes à n'importe qui sans aucune formation.
Un autre cadre de base de Mugunga déplore que ce cas de vindicte populaire frappe souvent les innocents. Une situation qui, selon ce cadre, est devenue très préoccupante en ces temps où une montée de la violence et de la criminalité attribuée à l'évasion récente des milliers de prisonniers de Mounzenze est constatée dans la ville.
Plusieurs dizaines de déplacés de Calais vivent dans des conditions difficiles sur deux îlots du lac Kivu, à savoir Ishovu et Ibinja. Ces déplacés manquent de soins médicaux, des vivres et des abris. La société civile de la chefferie de Bahavu lance un SOS en direction des humanitaires et des autorités. Elle s'inquiète qu'au-delà des situations humanitaires difficiles endurées lors des catastrophes naturelles du mois de mai 2023 à Calais, cette population se retrouve encore une fois exposée aux intempéries. Freddy Mbingu et Jean-Paul Ronelin Tibonera.
Il y a coupure des médicaments, les gens ne mangent pas, il fait plus d'une semaine qu'il n'y a pas même à manger. Vous allez voir les enfants qui souffrent. D'ailleurs, à Ishovu, il y a une personne qui est morte avant-hier. C'était une maman qui est morte. Elle a été atteinte par la maladie, famine aussi. Il n'y a pas quelque chose dans les centres de santé. Elle est morte comme ça. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver au centre de santé, mais il manque des médicaments, ils rentrent encore chez eux. Et c'est tout un problème. Nous traversons une vie très misérable, une vie très difficile pour les manger. Pas de nourriture. Les enfants vont mourir ici. Pas de médicaments pour les soins. Pas d'eau. Parce que on est sur l'îlot, il n'y a pas de l'eau. On est en train de consommer l'eau du lac. Donc la vie est très difficile. À Iju, je n'en parle pas. Iju, c'est une grande île du territoire, donc c'est un territoire à côté. Mais c'est là qu'on est, on est parti. Donc c'est tout un problème. Nous passons une vie très difficile à cause de cette guerre qui nous est imposée par l'M23 avec le Rwanda. Nous souffrons beaucoup ici à Kalehe, et c'est tout sur ces îlots là-bas que je viens de citer, Ishovu, Ihoka, Iko et le territoire d'Iju qui est aussi une île.
En Ituri, de nombreux habitants dans les villages qui ont été la cible d'attaque de la milice Codeco affluent au site des déplacés sécurisés par les casques bleus de la MONUSCO dans le territoire de Djougou. D'autres ont trouvé de la place dans les lieux publics proches des positions des FRDC. Selon des sources concordantes, ces personnes se disent sous la menace permanente des exactions des éléments de ce groupe armé disséminés dans la région. Au moins 4 attaques de cette milice ont été empêchées hier mercredi par les FRDC et les forces de la MONUSCO. Isaac Raymond.
Un mouvement massif de population s'observe depuis 3 jours dans plusieurs localités, notamment dans les groupements de Djaïba, proche de Fataki et vers Drodro dans le territoire de Djougou. C'est suite à l'intensification des violences depuis dimanche par la milice Codeco. Hier mercredi, un homme a été tué au village de Bassa. Des coups de feu ont été également attendus vers la paroisse catholique de Fataki. Pris de panique, certains habitants ont trouvé refuge dans les bâtiments de l'église. À Drodro, d'autres miliciens de la Codeco ont tenté le même jour de faire incursion, ce qui a obligé de nombreux habitants à fuir au site de Djangi, qui est sous la protection directe des casques bleus de la MONUSCO. D'autres se sont installés dans la concession de la paroisse à Drodro. De nombreux habitants venus des Tchoro, Boukwa et autres villages affluent au site d'Ero. Dans toutes ces entités, les dégâts sont minimisés grâce aux patrouilles mixtes et FARDC MONUSCO qui sont intenses dans la région. La société civile du territoire de Djougou lance un appel au gouvernement de prendre des mesures conséquentes en vue de mettre fin à l'escalade des violences dans ces territoires, mais surtout d'imposer la paix en neutralisant les groupes armés actifs dans la zone. Pour rappel, au moins 4 attaques de la milice Codeco ont fait environ 60 morts depuis lundi dernier dans cette entité territoriale et 5 autres tués par Zaïre dans la même zone. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Retour au nord Kivu, dans le territoire de Beni, la société civile de la localité de Basso à Lubena exhorte les autorités à agir sans délai pour mettre fin aux affrontements entre deux groupes armés locaux qui s'affrontent dans la région depuis 2 semaines. À ce jour, ces combats ont occasionné la mort de 11 civils et d'importants déplacements des populations des villages de Ngazi, Mambingi, Kiavisogo, Kitara, Visiki Usine, vers Mabalako et Kantine. Au sortir des deux journées villes mortes lundi et mardi de cette semaine, cette structure citoyenne demande aux déplacés de rester dans leur lieu de refuge en attendant le rétablissement de la paix. Moussoubao Aliamini Tchétché, président de la société civile de Bassoa Aloubena, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Ce que nous avons fait des journées sans activité, c'est un signal fort aux autorités. Nous pouvons dire à la population de vaguer tout d'abord dans ce premier temps à leurs activités. À notre niveau, nous sommes en train de voir comment multiplier les stratégies et faire continuer les actions administrativement. Il y a des plaintes, il y a des recommandations que nous allons émettre aux autorités. Nous continuons à les faire jusqu'à ce que les autorités, comme ils sont déjà saisis, ils travaillent déjà à nos requêtes. Nous attendons leur suite dans un bref délai, bien sûr, en train de travailler sur notre dossier du groupement Bassoa Madiwe qui a l'objectif zéro groupe armé dans le groupement Bassoa Madiwe. Et à ceux-là qui sont des déplacés d'Ngazi, Kitara, dans la localité Kipabashi, nous leur disons de rester d'abord dans leur lieu de refuge jusqu'à ce que ces groupes armés-là vont quitter les zones qu'ils occupent. Voilà que nous serons aussi rassurés et qu'ils peuvent aussi revenir dans leur village.
La malnutrition aiguë, sévère et chronique sévit depuis un certain temps dans le territoire de Kasongo-Lunda, plus particulièrement dans le secteur de Panzi, province de Kwango. Cette maladie touche beaucoup plus les enfants, mais aussi les adultes. L'administrateur de Kasongo-Lunda, qui le dit, évoque plusieurs facteurs qui favorisent cette situation, notamment la rareté des produits agricoles et l'ignorance de la population des bonnes habitudes alimentaires. Face à cette malnutrition qu'il qualifie de problème sérieux de santé publique, Arsène Kokangidila invite la population de Kasongo-Lunda à se donner aux activités agricoles et à avoir une alimentation équilibrée. Irène Bomaluzolo pour plus de précisions.
Pour l'administrateur du territoire de Kasongo-Lunda, la malnutrition constitue à ce jour un défi majeur pour ce territoire. Précisément dans le secteur de Panzi, le groupement de Kabemba est même au chef-lieu de cette entité. Arsène Kokangidila indique que plusieurs facteurs sont à la base de cette malnutrition tant aiguë, sévère que chronique qui ronge toutes les tranches d'âge.
À la base, on a connu tout d'abord une période où la production a été menacé, par exemple, avec le manioc, il y avait la mosaïque, et donc il y avait la rareté de produits vivriers qui a occasionné cette malnutrition. Il y a aussi la paresse aussi, ces gens qui ne veulent plus se donner au travail. Ils sont là dans la rue ou bien au marché avec des choses qui ne produisent pratiquement rien. Un des problèmes aussi. Il y a aussi l'ignorance, d'où la sensibilisation pour équilibrer la nourriture. Donc, nous sommes en train de les encourager à consommer ce que nous produisons, mais aussi à travailler pour avoir cette nourriture. Nous avons pris une décision d'imposer même le champ à la population.
Pour d'autres sources locales, les manques de semences et le réchauffement climatique sont également parmi les principales causes de l'insécurité alimentaire dans cette partie de la province du Kwango. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Proche-Orient, des dizaines de bulldozers et semi-remorques transportant du matériel de construction se sont alignés ce jeudi du côté égyptien du poste frontière de Rafah avant leur entrée dans la bande de Gaza dévastée par la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a également des camions transportant des camping-cars qui étaient stationnés au passage, prêts à entrer dans le territoire palestinien.
L'invité.
Radio et changement climatique, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de la radio ce 13 février. Une occasion de mettre en exergue l'importance de ce média, les défis auxquels peut faire face une radio et aussi sa particularité. Nous en parlons avec Simon Ouetechi, il est directeur de la RCBU, Radio Communautaire Bunyakiri, dans le territoire de Calais, province du Sud Kivu. Il répond aux questions de Rachel Kessembango.
Simon Ouetechi, bonjour.
Bonjour Rachel.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous?
Oui, madame, si du moins cette journée est célébrée, cela devait être fait d'une manière particulière afin de donner vraiment le vrai sens à celle-ci. Parce que tout ce que nous réalisons par le fait que la radio informe. Je prends l'exemple dans notre milieu ici à Bouyakiri. Personne ne saurait ce qui se passe dans le monde si du moins la radio n'existait pas. Moi, je pense que c'est une journée qui représente la vie de toute une communauté, la vie de tout un peuple, par le fait que l'information donne aussi la vie.
Informer à travers la radio, quelle en est la particularité?
En fait, la particularité en est que les pauvres et riches, intellectuels et non intellectuels, tous, selon moi, ont la même chance de suivre les informations, contrairement à d'autres moyens d'information. L'autre particularité, c'est que ici chez moi, tout le monde croit à X ou Y information si et seulement si elle a été relayée par la radio. Voilà un peu la particularité, madame.
Et quels sont les défis auxquels une radio peut faire face pendant cette période où la RDC est attaquée?
Les défis sont énormes. Je peux citer par exemple le changement du programme. Par exemple, ici chez nous, nous avons limité le nombre d'heures des émissions. Au lieu d'ouvrir l'antenne à 5 heures, nous le faisons maintenant à 6 heures. Et au lieu de clôturer nos programmes à 22 heures, ils se clôturent maintenant à 21 heures. Tout ça, c'est parce qu'il y a une situation qui n'est pas bonne dans la zone. L'autre défi, c'est les revenus sont revus à la baisse, si je peux le dire comme cela. Il n'y a pas des activités dans la zone. Et nous, ici, nous vivons aussi à travers les petites choses que nous recevons lorsque nous allons couvrir X, Y service. Nous rendons un service et il y a quelque chose en termes de motivation. Mais cela ne s'observe plus. L'autre défi aussi, ce que nous craignons d'ailleurs, peut-être ça peut arriver d'un moment à l'autre, c'est l'arrêt brusque des activités. Nous, on se ravitaille en carburant au niveau de la ville de Bukavu. Mais quand peut-être il n'y aura pas passage, on ne sait pas comment on pourra fonctionner. Donc ici aussi, notre défi, c'est la hausse du prix des carburants qui fait à ce que les générateurs puissent fonctionner.
Quelle place occupe encore la radio à cette ère où les nouvelles technologies de l'information prennent de plus en plus place?
En tout cas, moi, je dirais que la même place ici chez moi, elle reste l'outil d'information à masse. Si ailleurs il y a des avancées significatives sur la nouvelle technologie, nous qui travaillons dans les milieux ruraux ici, nous sentons toujours que la radio reste toujours l'outil de l'information par excellence et par conséquent, elle continue toujours à occuper sa place.
Cette année, la journée mondiale de la radio est célébrée sous le thème « Radio et changement climatique ». Qu'est-ce que cela vous dit? Et en rapport avec ce thème, comment est-ce que votre radio aide-t-elle vos auditeurs à prendre conscience de leurs responsabilités
pour protéger la nature?
Bon, pour moi, ce thème veut montrer à toutes les nations que la radio peut contribuer positivement au changement climatique. La question à se poser reste de savoir aussi l'attention que les décideurs accordent à la radio. Sinon, les radios, selon moi, devaient recevoir des subventions dans les cas de protection de l'environnement pour qu'elles multiplient les sensibilisations. Et pour moi, la plus grande contribution que notre radio joue dans les cas de la protection de l'environnement ou du changement climatique, ce sont là les émissions produites régulièrement, les sensibilisations tenues dans nos différentes antennes pour montrer à la population l'importance de protéger l'environnement, les conséquences liées au changement climatique. Je voudrais rappeler que nous sommes à moins de 30 km du parc national de Kahuzu-Biega. C'est un patrimoine mondial et nous jouons un grand rôle, nous sensibilisons les gens. Parfois, nous descendons sur le terrain, nous produisons des émissions publiques dans le cadre de sensibiliser la population sur la prise de conscience du changement climatique. Mais ça se fait difficilement, madame, parce qu'on n'a pas de subventions qui nous permettent de bien réaliser ou de bien sensibiliser la population sur le changement climatique.
Monsieur Etechi, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est à moi de vous remercier, madame, et remercier la radio Okapi pour le moment accordé.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois et un journal coordonné par Blaise Shindani Kambala sous la supervision de Martin Sebujangwe. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.